La première. Podcast.
Et nous accueillons Fabienne Van de Merge dans Midi Première. Bonjour Fabienne.
Bonjour.
Vous allez parler dans le forum, dans la première partie du forum des nouvelles drogues qui arrivent en Europe. Apparemment, deux types apparaissent chaque semaine en Europe.
De nouvelles drogues, pas de type, carrément deux nouvelles substances par semaine détectées en Union européenne. C'est l'Observatoire européen des drogues qui vient de le révéler dans un rapport. Alors, quelles sont ces substances? Comment les détecte-t-on? Quelles sont les filières? Ce sera en effet l'objet du forum jusqu'à 12h30. Et puis ensuite, nous parlerons du problème des terres agricoles. Ces terres nourricières qui sont l'objet de spéculations et de surenchères assez folles. Quelle est la parade en Wallonie, en tout cas? On en parle là aussi avec vous. N'hésitez pas à nous faire partager vos questions et vos avis.
Vos avis, questions et commentaires par téléphone au 02 737 3707, par SMS au 60 31 75 centimes le message, sur la page Facebook Le Forum de Midi ou via lapremière.be.
Et je vous présente tout de suite nos invités pour aborder le premier sujet de ce forum. L'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies a publié son rapport pour 2014. Il apparaît donc que deux nouvelles drogues sont détectées par semaine dans l'Union européenne. Ça fait 101 sur une seule année pour 2014. C'est évidemment énorme. Antoine Boucher, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de communication à Infordrog, donc forcément c'est un sujet que vous connaissez fort bien. Nous avons également par téléphone Corinne Charlier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur en toxicologie au CHU de Liège et très régulièrement, évidemment, en contact aussi, forcément, avec le monde judiciaire. Christophe Marchand également avec nous, bonjour.
Bonjour.
Avocat spécialisé en droit pénal. Alors, je le disais, deux nouvelles drogues détectées par semaine dans l'Union européenne. Corinne Charlier, c'est énorme en réalité.
Oui, c'est énorme et c'est quelque chose qui a commencé depuis les années 2008-2009. Entre 2008 et 2012, on trouvait une nouvelle drogue de synthèse par mois en France, une nouvelle drogue de synthèse par semaine en Europe et tous ces chiffres n'ont fait qu'augmenter depuis cette période.
Alors, sans une nouvelle substance psychoactive en 2014, contre, si l'on peut dire, 81 l'année d'avant. La question, évidemment, c'est de savoir si la production est plus importante d'année en année ou si simplement le système d'alerte fonctionne mieux d'année en année. Votre avis, Christophe Marchand?
Je ne saurais pas vous dire parce que moi, c'est plutôt le droit qui est mon domaine. Donc, je ne sais pas si avant ça fonctionnait mieux. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de nouveaux mécanismes qui ont été mis en place pour détecter les drogues et que ce système fonctionne de mieux en mieux. Donc on arrive à savoir maintenant que des nouvelles drogues sont arrivées alors qu'auparavant on ne le savait pas sans doute. Mm-hmm.
L'avis peut-être d'Infordrog, Antoine Boucher, là-dessus, sur cet élément. Est-ce qu'il y a plus de production ou est-ce qu'on est plus vigilant parce que les méthodes de détection sont plus au point d'année en année, ce qui serait assez logique?
Je pense qu'il y a un peu des deux. En fait, la production devient de plus en plus multiple. Donc, on propose via aussi des procédés de fabrication qui sont de plus en plus répandus aussi, des produits différents tout le temps pour différents motifs, soit effectivement pour éviter le caractère de faute pénale quand on produit des produits déjà répertoriés comme substances stupéfiantes. Et aussi, effectivement, les alertes précoces qui sont beaucoup plus... Mais c'est forcément lié à la première. C'est parce qu'on a remarqué qu'il y avait plus... Que les alertes sont beaucoup plus rapides, sont plus systématiques, etc. Et que donc, on découvre aussi plus de produits. Ça, c'est... Les deux vont ensemble.
Alors, la situation de la Belgique, peut-être d'abord, avant qu'on ne détaille ce que l'ensemble, finalement, de l'Union européenne, puisque c'est ça l'objet de ce rapport, qui a d'ailleurs, je ne l'ai pas encore dit, mais ce sont des chiffres et des résultats qui ont été révélés à l'occasion de la 58e session de la commission des stupéfiants de l'ONU. C'est cette commission qui, pour les Nations Unies, gère un peu le contrôle des drogues. On va en reparler. Mais en Belgique, alors, peut-être d'abord avec vous, Antoine Boucher, à Infordrog, la situation est particulièrement problématique chez nous en matière de drogue?
Mais non, elle n'est pas... En général, elle n'est pas particulièrement problématique. On remarque que depuis... une petite dizaine d'années, la consommation n'augmente plus, en tout cas par rapport aux grands produits qui sont surtout consommés, donc le cannabis, l'alcool, le tabac, sauf exception, ce sont pas vraiment des produits qui sont consommés de plus en plus. Donc ce qu'il y a, c'est qu'effectivement les produits sont beaucoup plus diversifiés en termes de nouvelles drogues de synthèse, et donc on les connaît moins bien, et donc effectivement il peut y avoir des problèmes de santé spécifiques qui sont dus au fait qu'on connaît pas ces produits, qui sont nouveaux et que donc on va les utiliser mal dans un contexte clandestin, etc. Et c'est ça surtout qui génère des problèmes, mais qui sont encore aujourd'hui à petite échelle, vu que ces produits sont quand même relativement peu consommés par rapport aux grandes drogues qu'on connaît plus.
Corinne Charlier, je rappelle, vous êtes professeure en toxicologie au CHU de Liège. Je le disais, il y a cette commission des stupéfiants de l'ONU. Je résumais un petit peu en disant que c'est une commission qui gère le contrôle des drogues. C'est vrai que c'est les États-Unis les Nations Unies qui donnent le ton en la matière, et les pays se mettent en conformité par rapport aux décisions de l'ONU.
Alors écoutez, moi pour ce que j'en sais, les décisions elles sont plutôt européennes, et il y a toute une série de directives de l'Union européenne qui sont ensuite traduites dans le droit belge dans des arrêtés royaux, et les substances qui sont classées sur la liste des stupéfiants, donc qui sont considérées comme illicites, sont précisées dans un arrêté royal.
Alors on évoquait un système d'alerte, rapide de l'Union européenne. Qui de vous trois sait comment fonctionne ce système d'alerte rapide? Alors je cite les noms pour savoir si j'entends oui ou non. Christophe Marchand, oui.
Oui, je pense qu'il y a une série d'informations qui sont relayées alors à un endroit, mais je pense que c'est plutôt au niveau de l'Institut de santé publique que ça se produit, avec une série d'informations à la fois judiciaires mais aussi médicales qui sont ramenées pour pouvoir alors connaître les évolutions du marché et des consommations.
Corinne Charlier, vous en tant que évidemment spécialiste en toxicologie, je le disais tout à l'heure, vous êtes en rapport aussi avec le monde judiciaire. Il y a la toxicologie judiciaire, on vous demande de faire des analyses. C'est le système d'alerte aussi qui fonctionne en la matière, ou bien est-ce que c'est une autre filière? On sait mal comment fonctionne tout ceci. C'est pour ça que ces chiffres, finalement, qui sont un peu spectaculaires, nous permettent justement d'expliquer comment ça fonctionne.
Non, alors évidemment, nous nous en servons de ce système d'alerte au quotidien. Donc, à chaque fois que nous avons une pièce à conviction, donc une drogue qui est analysée avec une demande judiciaire, le produit que nous avons identifié, nous allons l'encoder dans ce système d'alerte. Et cela permet aux autorités belges d'abord, et puis au système central, à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies qui est situé à Lisbonne, de faire des statistiques, de faire de l'épidémiologie. Lorsque nous trouvons un nouveau produit chimique et que nous l'identifions, nous envoyons par exemple des photos si c'est un comprimé, nous envoyons toutes ces caractéristiques, nous envoyons les résultats de nos analyses dans le système d'alerte rapide, et c'est l'ISP en effet, donc l'Institut de santé publique, qui va disséminer ces informations à tous les partenaires de ce réseau d'alerte pour qu'ils soient informés et pour que dans les éventuels produits que eux vont devoir analyser, eh bien ils sachent qu'ils doivent rechercher celui-là en plus, puisqu'il a déjà été identifié une fois en Belgique. C'est un système qui fonctionne très très bien, qui fonctionne en effet très rapidement et qui nous permet d'avoir d'excellents contacts entre le monde judiciaire, entre le monde de la clinique, et de pouvoir le plus rapidement possible identifier les nouveaux produits qui arrivent sur notre marché.
Alors, une réaction de Thierry sur Facebook, et là je vais me tourner peut-être vers le représentant d'InfoDrog qui est ici, Antoine Boucher. Thierry qui dit, et si les campagnes de prévention de la consommation de la drogue allaient aussi vite que la vitesse de la croissance de la drogue et de toutes ses variétés, ce serait super, écrit Thierry. Est-ce uniquement un problème de budget? Alors voilà, ça, vous êtes bien placé pour répondre à ça, une campagne de prévention.
Certes, les campagnes de prévention pourraient aller plus vite, mais en matière de drogue de synthèse, en fait, c'est très compliqué parce que le système d'alerte précoce va effectivement identifier des pilules qui ont soit un taux de produits actifs dangereux, soit contiennent des substances substances dangereuses. Et donc, on peut identifier là, comme on l'a fait récemment avec une pilule qui avait un logo qui ressemblait au sigle de Superman, on peut vite diffuser ce type d'infos. Mais comme on est sur un marché clandestin, etc., il y a souvent un effet, un appel avec ce type de pilule. Et donc, malheureusement, les producteurs vont s'amuser parce que je pense qu'il y a un effet commercial, malheureusement, quand on dit qu'une pilule est dangereuse, ben, comme le danger fait partie des motivations à consommer, ben, un certain nombre de producteurs, hein, tout ça est clandestin et on ne peut rien contrôler, va effectivement produire une pilule qui va ressembler à ça parce qu'il va y avoir diffusion d'informations, on va en parler, il va y avoir un buzz, etc. Et que donc le danger est intrinsèquement lié. Et donc ça, c'est notre réaction d'adulte, notre réaction d'acteur dans le secteur sanitaire qui pense que ça va fonctionner, ce type de prévention. Mais ça ne fonctionne malheureusement pas. Et pire encore, ça peut générer ce que je viens d'expliquer. Mm-hmm. Donc, en fait, un appel à créer des pilules parce qu'on les crée très facilement. On change le moule, etc. On change la couleur et on fait des pilules qui ressemblent à ça. Et donc, le consommateur, il essaye quand même de suivre ça parce que ça l'intéresse et il est perdu. Mm-hmm. Donc, c'est très compliqué de faire des campagnes comme ça, rapides, actives. Il faut vraiment trouver une manière de le faire de façon intelligente et c'est pas facile.
Alors deux choses à propos de ce que vous venez de dire. Vous dites on change le logo, on change et qui on ? Alors on ici en Belgique ou on à l'étranger et les filières remontent du ciel. On sait que la Belgique est une plaque tournante, on le sait bien de ce
c'est
trafic.
Comme les voitures, hein, les matières premières arrivent de l'étranger et puis on assemble ici tout près pour justement correspondre le plus rapidement, parce que tout ça c'est du marketing, à la demande locale. Si un logo ne convient plus et tout le monde sait qu'il est mauvais, hop, on change vite. Et ça, il faut que ça se fasse très rapidement, tout près du lieu de consommation. Par contre, effectivement, ça peut venir en poudre de très très loin. Ça, c'est pas un problème. On change la couleur et le moule. Ça, c'est une petite équipe dans une cave qui peut faire ça.
Mm-hmm. Alors, deuxième chose, peut-être avec le professeur Charlier, à propos de cette pilule à laquelle vous faisiez allusion à l'instant, monsieur Boucher, la pilule avec Superman, etc., c'était des pilules d'extasie, je pense, c'était ça. Hein, c'était des initialement, alors, ça ressemblait à une pilule d'extasie.
Oui, c'est ça. Ecstasy, c'est un nom générique, mais malheureusement, on ne sait pas la substance qu'il y a derrière.
Oui, mais alors justement, professeur Charlier, comment fait-on pour détecter, pour dire voilà, c'est dangereux, attention, c'est vrai qu'il y a eu une campagne, mais l'ecstasy elle-même est déjà dangereuse, donc qu'est-ce qui est mis en plus dans la substance pour que on alerte à ce point les consommateurs potentiels?
Mais écoutez, il y a deux choses. Soit ça peut être de l'ecstasy, mais à une concentration beaucoup plus importante que celle auquel le consommateur est habitué. Et bien entendu, si au lieu de consommer des pilules dans lesquelles il y a 15% de produits actifs, il se retrouve avec des nouvelles pilules qui en contiennent 50%, s'il a l'habitude d'en consommer 2, 4 ou 6 sur sa soirée, eh bien les effets toxiques vont être multipliés de 15% à 50%. Et donc, il y a évidemment un risque très important de toxicité et ça vaut la peine d'alerter, ne fût-ce que sur la teneur en principe actif dans les pilules. Et puis, comme le disait l'interlocuteur précédent, on dit ecstasy, ce sont souvent des dérivés d'amphétamines. Ils se ressemblent sans être tout à fait identiques et ils peuvent avoir des toxicités particulières, un effet un petit peu plus cardiotoxique ou un effet un petit peu plus toxique pour le cerveau ou un effet un petit peu plus toxique pour le foie, etc. Et donc, il est important d'identifier le dérivé d'amphétamine précisément qui est présent dans le comprimé pour savoir de quoi on parle et pour savoir à quoi on a affaire.
Alors nous allons continuer bien entendu ce forum. Dans un instant, nous parlerons aussi de la légalité, illégalité. Ce sera surtout avec Christophe Marchand, avocat spécialiste en droit pénal. Et surtout, comment fait-on quand de nouvelles substances arrivent pour parler d'illégalité ou de légalité dans leur sens? Bon, on va en parler dans un instant, ce sera juste après ceci.
Midi première. Le Forum. Fabienne Vandemers.
Et nous sommes en compagnie de Antoine Boucher, de Infordrog, Christophe Marchand, avocat spécialisé en droit pénal avec nous par téléphone, également Corinne Charlier, professeure en toxicologie au CHU de Liège. Nous parlons des nouvelles substances, 2 par semaine ont été détectées dans l'Union européenne. Alors, je disais il y a un instant, avec vous peut-être Christophe Marchand, quid de ce projet de loi? Est-ce qu'il existe qui ne pénaliserait plus les drogues, puisqu'on parle de substances, plus les drogues, mais les substances?
Je crois que pour bien comprendre la situation juridique, il faut revenir à la base, qui est la loi de 1921 sur les stupéfiants, qui est une espèce, j'ai envie de dire, de monstre juridique parce qu'elle est très courte et elle renvoie beaucoup de compétences au roi. Mmh. Et donc il y a deux arrêtés royaux qui ont été pris, un sur les substances psychotropes, qui sont un peu finalement les drogues synthétiques, et puis un sur les substances stupéfiantes, qui est le terme pour désigner plutôt les drogues naturelles, cannabis et autres. Mmh. Et donc il y a eu un projet de loi qui a été voté, et une nouvelle loi a été introduite, c'est une loi du 7 février 2014, qui vise justement à essayer de trouver une solution légale pour ce problème des nouvelles drogues. Alors, comme l'a dit il y a un instant le professeur qui est toxicologue, mais l'arrêté royal sur les substances psychotropes prévoit une série de produits qui sont interdits. Il y a une liste d'environ 4 pages. Et puis alors, il y a les nouveaux produits qui arrivent. Et normalement, soit c'est une information qui vient des Nations Unies ou une information qui vient de l'Europe. Mais ici, l'idée, c'est d'aller vers des produits de base, des produits génériques. Alors, moi, je ne suis pas toxicologue, donc je ne sais pas très bien ce que ça va vouloir dire dans la réalité, parce que les arrêtés royaux ne sont pas encore pris à ma connaissance. Mm-hmm. Mais dans l'explication de la loi, on dit, par exemple, voilà, il faudrait une nouvelle loi parce qu'il y a ces nouvelles drogues, notamment des cannabinoïdes, donc des produits à base de la substance active du cannabis. Mm-hmm. Or, moi, dans ce que j'ai constaté dans l'arrêté royal, cette substance est déjà visée, c'est le tétrahydrocannabinol, si je ne me trompe pas. Et je dirais, pour chaque drogue, c'est la même chose. Et chaque fois, la substance, quand on parle des amphétamines, il y a aussi une série de substances qui sont visées. Et donc, j'ai l'impression un peu, en tout cas comme avocat pénaliste et comme juriste, c'est un peu difficile d'interdire un produit qui n'existe pas encore, évidemment, puisque le droit pénal, il vise à interdire des comportements et qu'on sache très bien ce qui est interdit, ce qui ne l'est pas. Et ici, on a une espèce de flou qui s'est introduit. Et je n'ai pas l'impression que cette loi va pouvoir apporter une solution et une réponse efficace à la question qui se pose, qui est finalement une question de santé publique. Et on parlait de la prévention il y a un instant de vos auditeurs, je pense que c'est là l'élément fondamental et pas une répression, je dirais, qui se fait de manière un peu aveugle ou en tout cas de manière indéterminée.
Merci donc pour cette explication. Alors peut-être un mot d'explication complémentaire de Corinne Charlier sur le plan strictement, je dirais, des compositions. Je lisais que dans la centaine de substances nouvelles détectées en 2014 par l'Observatoire, qu'il y a deux groupes qui dominent. Et alors celui que vient de citer Christophe Marchand, les cannabinoïdes synthétiques, donc qui sont vendus comme substituts légaux du cannabis, et puis les catinones de synthèse. Alors ça, c'est quoi, Madame Charlier ?
Alors ça, ce sont des produits qui ressemblent aux amphétamines. Donc en fait, la structure chimique de base est la même structure que celle de l'amphétamine. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle la nouvelle loi qui vient d'être évoquée, les arrêtés en effet ne sont pas encore écrits, voudrait, si vous voulez, interdire ou rendre illicite toutes les substances dont la structure chimique est basé sur la structure d'une part de l'amphétamine pour cette catégorie-là de substances, et on y retrouverait les catinones de synthèse et toute une série d'autres nouvelles drogues dont on parle pour le moment. Alors ce qui se passe, c'est qu'en fait le noyau central de la molécule est toujours identique dans l'ensemble de ces différentes substances, et que ce qui fait qu'on parle une fois d'ecstasy, une fois de catinone, une fois d'autres produits encore, c'est que le fabricant a rajouté des groupements chimiques à droite et à gauche sur la molécule, mais sans jamais en avoir changé la structure de base, le noyau. Mmh. Et donc, si vous voulez, si on va vers cette nouvelle loi, eh bien, elle aurait pour objectif d'interdire tout ce qui a été construit sur le même noyau chimique de base.
Alors, est-ce que toute proportion gardée, en prenant toutes les paires de gants d'usage à cet égard, on pourrait dire que le phénomène qui se passe à ce sujet pour le moment, c'est un petit peu comme dans le dopage, c'est-à-dire que dès qu'un produit est interdit, on en fabrique un autre qui n'est pas très éloigné mais qui sera indétectable pendant un temps X. Madame Charlier ?
Oui, je pense qu'on peut tout à fait faire cette comparaison. Juste une toute petite nuance, c'est qu'on parle beaucoup de nouvelles drogues, mais la plupart de ces produits existent depuis plus de 50 ans.
C'est ça.
Ce qui a changé, c'est l'accès à ces produits, et notamment, on ne l'a pas encore dit, mais l'accès très facile via Internet, puisqu'on peut se procurer ce type de produit très facilement par Internet.
Alors, pardon, je vous interromps, parce que je reçois à l'instant sur Facebook un message qui fait allusion, un message de la Ligue anti-prohibitionniste d'ailleurs, et qui dit ceci, je vous le livre intégralement, ce nouveau phénomène des drogues de synthèse disponibles sur Internet est la conséquence d'une politique prohibitionniste, nous dit la Ligue. Ce commerce vise à contourner les interdits en modifiant les molécules, ce que vous venez de dire, de façon à les différencier par rapport aux substances reprises dans le tableau des substances interdites. Et la Ligue antiprohibitionniste ajoute, l'ingénierie chimique permet de mettre beaucoup de substances sur le marché. Les acteurs de la santé ont peu de données pour identifier les dangers. Donc, et ça c'est la conclusion évidemment de la Ligue, la prohibition est source de dangerosité. La meilleure politique de promotion de la santé serait la légalisation. Voilà, ça évidemment c'est une option. L'avis peut-être de Infodrogue là-dessus, précisément sur ce qu'on vient d'entendre de le message de Facebook.
Mais oui, enfin, je pense que c'est assez proche de la réalité quand on voit que chaque fois qu'on va interdire un nouveau produit, il va être systématiquement soit il va être continué à être vendu parce que de toute façon, on voit bien que ce n'est pas la pénalité légale qui empêche ce produit de se trouver sur le marché. Hein. Ça fait 90 ans que tous ces produits sont interdits, les produits bien connus, et ils sont toujours là et de plus en plus disponibles. Mais pour ceux qui veulent un surcroît de légalité, ils vont effectivement changer. Et donc, on va tomber dans un produit encore moins connu, encore souvent beaucoup plus dangereux, plus toxique. On a eu l'exemple avec le GHB qui a été remplacé par le GBL, qui est un solvant qu'on peut trouver dans tous les magasins de solvants pour voitures, etc., qui est extraordinairement toxique, que des enfants mettent quelques gouttes. Il faut vraiment compter les gouttes dans des jus de fruits, etc. Ça fait beaucoup plus d'accidents. Donc, qu'est-ce qu'on gagne en termes de santé publique à aller toujours plus loin dans... cette illégalité. Par exemple, il y a une drogue qui n'est jamais apparue sur le marché des drogues de synthèse, c'est l'éthanol.
Oui.
Parce que l'alcool est légal. Et donc, on ne va pas créer ça. C'est
alors,
idiot.
Juste un dernier mot peut-être avec vous, Christophe Marchand, parce que vous disiez tout à l'heure, finalement, difficulté forcément de poursuivre quand l'illégalité d'un produit n'est pas encore affirmée. Quid d'un effet rétroactif?
Non, ça, le droit pénal, c'est pas possible. Donc,
d'accord,
on peut pas interdire a posteriori un comportement. Pourquoi? Parce que tous les citoyens doivent savoir ce qui est interdit et ce qui ne l'est pas. Si quelque chose n'est pas interdit, mais on peut pas après l'interdire, parce que sinon les personnes ne savent pas comment agir. Je veux dire, si tout à coup vous interdisez un comportement en y attachant une sanction pénale, ben c'est contraire au principe de base, j'ai envie de dire, de la répression pénale.
Dernier mot aussi peut-être avec vous, professeur Charlier. La frontière évidemment entre les médicaments et les drogues, c'est l'usage forcément que certains en font également, mais c'est aussi question de législation d'un pays ou d'un État à l'autre, non?
Pas de législation. Il y a évidemment, il y a bien entendu des médicaments qui sont considérés comme des stupéfiants hein, et qui font l'objet d'une délivrance tout à fait particulière, qui sont gérés dans un cadre législatif tout à fait particulier. Maintenant, les médicaments sont censés être prescrits par un médecin, délivrés dans une officine, et donc, bien entendu, il y a au moins cette différence-là. Mais c'est certain qu'on est avec des substances chimiques qui sont parfois très proches entre le marché des psychotropes illicite et le marché des médicaments.
Merci professeur Charlier, merci Christophe Marchand et merci Antoine Boucher d'avoir nous avoir éclairé sur ce sujet. Dans quelques minutes, nous aborderons le deuxième thème du forum de ce jeudi midi. Nous parlerons du problème des terres agricoles.
Vos avis, questions et commentaires par téléphone au 02 737 37 07, par SMS au 60 31 75 centimes le message, sur la page Facebook Le Forum du Midi ou via lapremiere.be.